Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
Quand on tire, on raconte pas sa vie.
Alors qu'est-ce qui se passe ici?
J'essaie d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet.
This is a revolution sure shot.
There's a war going on outside.
Say what?
Les Roquets Rouges sur CFM.
Bonjour, c'est Guillaume des Roquets Rouges. Je me suis réuni tout seul pour une émission spéciale en raison de l'actualité sociale et politique. Alors, ça fait longtemps qu'on n'arrivait plus à se réunir, nous les Roquets, pour faire ces émissions rigolotes et parfois un petit peu pertinentes. 6 mois sans vous les donner de nouvelles, les copains. Et la responsable en est la petite maison à la campagne. Nombreux sont les Roquets qui en veulent une et qui en ont acquis une ces derniers temps. Mais quand désormais il faut faire entre 40 et 80 kilomètres aller-retour pour aller à Rodez, enregistrer en studio, eh ben ça fait cher l'émission au prix où est l'essence et où le diesel. Et là, vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, on va parler du mouvement des Gilets jaunes. Alors, je dois vous avouer que l'appel des Gilets jaunes a d'abord suscité chez moi un agacement certain. C'est vrai que c'est énervant de voir des gens qui se mobilisent pour une industrie polluante, le diesel, alors que les cortèges pour la défense des services publics, pour le climat ou pour nos salaires sont trop souvent clairsemés. Mais une fois de plus, c'est le mépris affiché de certains de mes camarades syndicalistes, camarades de gauche, envers l'objet plutôt que l'objet lui-même, qui m'a convaincu de modifier mon approche de cet événement. Le samedi 17 novembre, j'ai pas mis de gilet jaune, mais je suis allé quand même sur les points de blocage autour de Rodez. Et pour une fois, j'ai fermé ma grande gueule de gauchiste et j'ai écouté les participants. Avec un micro, j'ai interviewé une douzaine de personnes prises au hasard pour le compte de CFM Rodez 107.9. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va écouter les gilets jaunes, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire. Moi, j'ai pu parler avec des retraités, des artisans, des salariés d'entreprises privées, surtout des gens non engagés politiquement. Et je vous avoue que c'est un public que je ne côtoie habituellement peu. Donc sur les 4 ronds-points où je me suis rendu, l'ambiance était bon enfant, les gilets jaunes laissaient passer les ambulances, les infirmières et aussi les voitures avec de jeunes enfants à bord. Alors la première impression qui se dégage de ces entretiens, vous le verrez dans l'émission, c'est un profond ressentiment d'injustice. Les manifestants ont l'impression une fois de plus de s'être fait arnaquer, et cette fois-ci avec le diesel. On les a incités pendant des années à acheter ce type de véhicule pour ensuite être taxés sur une dépense qui pour beaucoup est incompressible. C'est ça le problème. Tous, et j'insiste bien là-dessus, tous les gens rencontrés, interrogés au hasard et que je ne connaissais pas avant, je vous assure, tous m'ont soutenu que les riches pouvaient être taxés avant eux. Les riches, oui, individus ou entreprises, pas les immigrés ou les chômeurs, les riches. Et certains reprenaient le slogan de François Ruffin, « Rends les SF d'abord ». Donc évidemment, ça m'a plu. Donc on va, dans quelques instants, écouter des gilets jaunes que j'ai rencontrés. Mais juste avant, on va écouter une musique. Alors, je dois vous dire que sur les ronds-points, il y avait des sonos. Alors, j'ai entendu une Marseillaise, certes, mais j'ai surtout entendu des musiques qui appartiennent clairement au folklore de gauche, comme par exemple Cayenne de Parabellum, ça faut connaître, hein, c'est pas n'importe qui connaît, ou Antisocial de Trust. Et celle qu'on va écouter, que j'ai entendu aussi lors du rassemblement, c'est On lâche rien d'HK et les Saltamans. Ça va vous la mettre dans la tête, ça va créer un climat. Nous, ça nous évitera ensuite de mettre un tapis sonore, vous l'aurez dans la tête et on attaquera ensuite avec les deux premiers intervenants qui seront Dominique et Thomas. Voilà, on écoute HK et les Saltamanques, on lâche rien.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber.
On lâche rien, 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 on lâche rien.
Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote?
face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers. Qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.
Alors je suis au rond-point du bowling avec les gilets jaunes et je suis avec votre prénom
Dominique.
Avec Dominique. Alors Dominique, qu'est-ce que vous faites là ?
Moi je suis là pour manifester contre Monsieur Macron et toutes ces taxes qu'il nous met sur le dos. Moi par exemple, je suis à la retraite, j'ai travaillé 44 ans, je touche 941 euros de retraite. En plus de ça, on nous pompe sur l'essence, les 80 km/h, soi-disant que ça évite des morts, je veux bien, mais il y a beaucoup plus d'accidents. Pourquoi ? Parce que les gens passent leur temps à regarder le compteur plus que la route. Essayer de supprimer les diesels, je regrette, mais le diesel de maintenant consomme moins qu'une essence, et l'électrique consomme beaucoup plus que les diesels. Pour la simple raison qu'on n'a pas trouvé encore les moyens au niveau des batteries pour les stocker à leur mort.
Vous avez un diesel ou un essence ?
Un diesel.
Et ça vous coûte combien l'essence, enfin le diesel par mois dans le tarif ?
Un plein, 80 euros en gros, quoi. 79,80, un plein. On nous dit de prendre une essence. Avec une essence, on fait deux fois le plein. Quand on le fait qu'une seule fois avec un diesel, c'est-à-dire beaucoup moins de kilomètres. Et l'électrique est hors de prix. À moins de 35 000 euros, on n'a pas une électrique correcte. Une Zoé, c'est autonomie, s'il pleut, si c'est de nuit, 80 km.
Bon, et c'est votre première action ? Vous étiez engagé ailleurs, dans un syndicat, un parti
Non. J'ai manifesté une seule fois dans ma vie, c'était pour mon travail. Mais là, c'est vraiment contre M. Macron, qui fait tout le contraire de ce qu'il avait dit. Mais bon, c'est un peu de notre faute, on l'a voté.
Et l'argument écologique qu'ils emploient, là, ils ont pensé quoi ?
L'écologie, je veux bien, mais l'écologie, ça n'existe pas.
Pourquoi ?
Parce que quoi que vous voulez faire, vous aurez toujours des pollutions. Mettons, par exemple, on parle des diesels, là, du gasoil, que ça pollue, ta. Un cargo pollue l'équivalent, je ne veux pas dire de bêtises, de 5 millions de voitures.
55 millions.
55 millions, vous voyez, je suis loin du compte. Voilà, donc l'écologie, elle est bonne pour tout le monde ou pour personne.
Merci David. Alors là, je suis avec
Thomas.
Un indice vestimentaire me dit que vous êtes au gilet jaune. Pourquoi ?
Alors, gilet jaune, c'est pour faire avancer les choses un peu dans la société, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. À commencer par la hausse des taxes, le carburant, le salaire qui ne suit pas, et bien entendu beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres choses.
Vous, par exemple, vous avez quoi, un diesel, un essence ?
Et j'ai les deux.
Par mois, combien ça vous coûte, par exemple, le diesel et l'essence, les pleins des voitures ?
Alors, diesel, donc, c'est... Avant, c'était beaucoup moins par rapport à l'essence. Mais maintenant, j'ai 60 euros de plus en diesel. Et l'essence, je suis à peu près à 65 euros de plus. Donc, qui me vient à peu près équivalent actuellement. Que ce soit le diesel ou l'essence, ça s'équivaut.
On vient d'avoir passé une infirmière, là, que le barrage a laissé passer, qui a souhaité bon courage. Parce que, oui, vous ne bloquez pas complètement ici.
Alors, on est parti, c'est bloqué, mais pas tout à fait. Pas entièrement. Donc, tous les services de secours, on les laisse passer. Ça, c'est la priorité des choses. Parce que d'autres disent, oui, voilà, ils vont bloquer, les gilets jaunes, ils vont bloquer. Oui, on bloque, mais on filtre quand même. Il y a la priorité, le niveau santé. Il y a d'autres aussi qui ont une priorité, que ce soit les services médicaux, services de police ou de secours. On les laisse passer, quel qu'en soit l'urgence. Quoi, voilà.
Est-ce qu'il y a des râleurs ? Est-ce que vous avez des soucis ici, là, sur le rond-point du bowling ?
Alors, l'avantage, surtout à Rodez, ça a été bien organisé. Une gilet jaune qui a été déclaré à la préfecture, donc dans le cadre normal, légal, on va dire. Après, la deuxième chose, on n'a jamais eu de soucis parce qu'on a fait une réunion d'information pour dire le pourquoi, le comment et voilà le jour J aussi, qu'on soit prêt à intervenir s'il y a des débordements. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Est-ce que c'est votre premier engagement ou vous êtes un habitué des manifs ?
Je suis un habitué.
D'accord. Vous êtes quelque part syndiqué dans un parti
Pas syndiqué, mais je suis dans les associations. Voilà. Je suis quelqu'un d'associatif. Associatif.
L'argument, une dernière question, l'argument écologique de Macron sur le diesel, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est un argument qui ne tient pas. Voilà. Ils le savent déjà. C'est pour ça d'où mon pancarte que j'ai écrit. Voilà. L'État, c'est le monstre. Voilà. Ils vous disent, nous, ne vous inquiétez pas, l'État est là. Mais l'État, il fait quoi ? Absolument rien. Moi, perso, dans ma vie courante, quotidien, l'État, il n'est jamais là. Donc, pour moi, l'État, c'est le monstre, c'est le pire.
Qu'est-ce que vous attendez de l'État ?
Alors, on parle de l'État. Moi, j'attends énormément de l'État. La priorité, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'écologie ? Oui, c'est l'écologie. Mais quand on voit le salaire, pourquoi les gens râlent ? C'est le salaire qui ne suit pas. Moi, j'ai des gens, je connais des ouvriers qui travaillent pour gagner 1000 euros, voire moins ça. Et le coût de la vie, il est hyper cher. Voilà. Donc, on est toujours en survie. Voilà, on est dans la survie. Et l'État, les citoyens, les citoyens, c'est l'État. Et quand l'État n'est pas au plus près de ses citoyens, c'est normal.
Et les services publics, c'est pas l'État ?
Services publics, en quelque sorte, oui, il y a l'État. Mais eux, c'est une minorité qui comprend et qui sont là au plus près des citoyens.
D'accord. En fait, ils prennent plus qu'ils donnent, quoi, c'est ça ?
L'État, ça a toujours été ça, voilà. On donne 10%, on prend 90%. Donc, en réalité, voilà, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien de fait.
Merci, Thomas.
Avec plaisir.
Nous revoilà en studio à CFM Rodez. Donc, on a entendu Dominique et Thomas. Je remercie Thomas et sa compagne qui m'ont offert le café pendant qu'on discutait. Et maintenant, on va écouter... J'ai changé de rond-point et je suis parti sur le rond-point qui est à côté du lycée Larocque. Et on va écouter Brigitte, Marie-Sylvie et Mehdi. Alors Mehdi, je le connaissais un petit peu. Enfin non, lui me connaissait. Il m'a reconnu parce que c'était un ancien élève. Quand j'étais il y a très longtemps de ça, un prof. Maintenant, Mehdi, il est étudiant. Et il est venu me voir. On a pas mal discuté hors micro. Et puis lui aussi, il a des choses à dire. Donc on va écouter ces quatre personnes.
Donc là, je suis avec Brigitte, il y a un indice vestimentaire qui me dit qu'elle serait au gilet jaune. Brigitte, qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis là parce que je suis pas contente de tout ce qu'Emmanuel Macron impose comme taxe.
Alors, quoi par exemple ?
L'essence, mais tout ce qui va concerner les pouvoirs d'achat, l'augmentation de tout.
De la vie, oui. Vous, l'essence par exemple, qu'est-ce que ça représente dans votre budget par mois ? Essence ou diesel ? Vous avez un diesel ou un essence ?
Essence.
Bon, et qu'est-ce que ça représente comme budget ?
J'ai pas calculé, parce que ça fait peur. Ah. Mais c'est énorme, je fais 17 km par jour, aller-retour, sans compter que je m'en serve dans la vie privée. 60 euros de plein à peu près tous les 10 jours.
Et alors, hors micro, vous me disiez, vous travaillez dans le milieu de la santé ?
Oui.
Et là aussi, ça va pas très bien ?
Non, on nous retire des postes de fonctionnaires, donc ils suppriment des postes de fonctionnaires, donc tous les départs à la retraite ne sont pas remplacés. et du coup ils nous retirent tous les avantages que des gens se sont battus pour avoir. Donc non, je suis pas contente.
Est-ce que c'est votre première action ou vous êtes une habituée des manifs?
Ah non, pas du tout habituée. Ma première action et oui.
Vous continuerez?
Cette action-là, oui.
Et l'argument de l'écologie qu'avance le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez?
L'écologie, mais c'est chacun qui doit faire un petit pas pour... Ça commence par nos habitudes de vie, l'écologie... Il faut que la planète soit propre, je suis tout à fait d'accord et je suis entièrement pour, mais qui remplace des voitures essence par du diesel, c'est bien beau, mais il faut pouvoir avoir les sous pour pouvoir acheter ces voitures. Les avions, c'est du kérosène, ils taxent rien dessus, c'est énorme. Les bateaux,
Merci Brigitte. Alors je suis avec Marie et Sylvie sur le rond-point, c'est le rond-point de Sébazac ça. Donc qu'est-ce que vous faites là?
Eh ben, on est venu soutenir l'action des Gilets jaunes parce qu'il y a un ras-le-bol général, pas uniquement par rapport au prix de l'essence, mais un ras-le-bol général par rapport à toutes les mesures qui sont prises depuis plusieurs années.
C'est parti du prix du diesel, vous roulez en diesel ou essence?
Je roule en diesel moi, ouais.
Et vous, essence ou diesel?
Essence.
Combien ça représente de budget à peu près dans le mois, un plein d'essence ou de diesel pour vous?
Un plein c'est 70 euros et il m'en faut deux par mois. Donc quand on est au SMIC, on voit ce que ça représente comme pourcentage par rapport à notre budget total, quoi.
Et vous Marie?
Moi je dépense 200 euros d'essence par mois.
Vous gagnez un peu plus que le SMIC? Ouais. Mais 200 euros, oui, bon ça coûte quand même. L'argument qu'avance Macron, c'est que c'est pour taxer le diesel, pour l'écologie, pour la planète. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Moi, pas grand-chose, si ce n'est que y a peut-être des choses à taxer, comme les avions, peut-être, non? Et les bateaux et tout ça qui polluent certainement plus que nous. Il me semble qu'il y a des études aussi qui sont faites sur le diesel et que la pollution au niveau du diesel n'est pas extraordinaire. Après, il faudrait peut-être donner des aides. Moi, je ne suis pas contre rouler à l'électrique si on me donne des aides. Il n'y a pas de souci.
Justement, les aides qu'Edouard Philippe a proposées pour l'achat d'une voiture, la reprise d'une vieille voiture, ça va dans le bon sens ou pas?
Je sais pas, ma voiture est récente, donc j'en sais rien, mais dans tous les cas, je pense que c'est pas assez. Il y a des gens qui travaillent, la plupart des gens travaillent au SMIC, et c'est quand même compliqué de se payer une voiture électrique. Et puis c'est un budget par mois, puisqu'en plus il y a les batteries à payer régulièrement, quoi, tous les mois, donc je comprends pas.
Vous Sylvie, l'argument de l'écologie, oui, non?
Moi je suis tout à fait pour faire des efforts par rapport à l'écologie, mais je pense pas que la solution elle soit là, dans la mesure où aujourd'hui comme disait ma copine, il y a des études qui prouvent qu'en fait les voitures, la pollution des voitures en fait représente un pourcentage négligeable par rapport à la pollution des porte-containers, des bateaux, des avions. Et le problème, c'est qu'on tape toujours sur les mêmes, quoi.
Dernière question, est-ce que c'est votre première action ou vous êtes plutôt des habitués des manifs?
Moi, c'est ma première action. Je ne suis pas une habituée des manifs, mais là, je me dis que la coupe est pleine, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut réagir.
Marie?
Moi, pareil, j'avais jamais manifesté. Et je crois qu'à un moment donné, il faut montrer qu'on n'est pas content.
Merci. Donc là, je suis avec Mehdi. Mehdi porte aussi un gilet jaune. Alors, pourquoi tu portes un gilet jaune?
Alors tout d'abord, bienvenue à tous dans le mouvement. Alors d'abord, je m'appelle Mehdi et je porte ce gilet parce que tout d'abord, je trouve ça inacceptable qu'on taxe toujours les personnes de la classe moyenne, que ça soit fiscalement, parce que par exemple, je sais pas, dès que les groupes comme Google, tout ça, ils fraudent, c'est pas grave, mais dès que c'est des personnes comme nous, là, on se fait fliquer direct. Après, voilà, c'est pour ça que j'en ai là. Et aussi pour symboliquement, parce que c'est le mouvement, je trouve qu'il est bien, parce que quand même c'est historique, parce qu'on se rend compte quand même. Certes, il y a 2-3 ans, il y avait la loi travail, il y avait la CFTT, tout ça, genre il y avait tous les syndicats qui venaient. Mais là, c'est vraiment soutenu par pratiquement aucun syndicat. Donc du coup, c'est historique, c'est vraiment venu du peuple, d'Internet, quoi. Genre il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru voir ça, quoi.
D'après toi, c'est mieux que ce soit pas soutenu par les syndicats?
C'est bien, genre en fait. Moi, je m'en fiche un peu, mais quand je parlais de syndicats, c'était surtout parce qu'en fait, les syndicats, c'est un peu encadré, quoi. Alors que là, genre, c'est vraiment un mouvement qui a réussi à s'encadrer, mais par le peuple, mais vraiment le peuple. Parce que syndicat, c'est un peu genre, c'est des associations, c'est même des fois ils peuvent même négocier avec l'État. Donc du coup, ils ont un peu un pied dans le système, un pied en dehors, quoi. Alors que nous, c'est vraiment en dehors un peu du système, quoi.
Tu parlais de la loi travail, t'as manifesté contre?
Bah, à cette époque, je dois être honnête, j'ai pas manifesté parce que à cette époque, je voyais pas l'utilité parce que je me disais que c'était avec les syndicats et c'était juste des manifestations. Et vu que moi j'étais au lycée, du coup, il y avait la plupart qui venaient juste pour rater les cours, quoi. Donc, alors que là, vu que là je suis adulte maintenant, j'ai plus pris conscience, voilà, des problématiques, quoi.
Je peux te demander ce que tu fais dans la vie?
Alors, je suis toujours étudiant, je fais un BTS électronique au lycée Carnus à Rodez, à Bourran.
T'es un habitué des manifs en général ou c'est ta première action vraiment?
Là, c'est vraiment ma première action. Là. Sinon, j'ai jamais fait de manif. Voilà.
Toi, t'as une voiture diesel essence?
Diesel, ouais. Justement, c'est pour ça que je manifeste aussi, j'avais oublié. C'est parce que si on taxe encore plus, alors que moi je suis étudiant, j'ai juste une bourse et en plus je paye le lycée parce que c'est privé, donc du coup moi je vais encore plus galérer, quoi. Donc
ça représente combien de budget, combien d'argent sur ton budget l'essence par mois?
Bah entre 60-65 euros à peu près. Et encore ça dépend des mois parce qu'il y a des fois je roule pas le week-end, donc du coup c'est un peu moins cher, et il y a des fois je roule complètement, donc du coup c'est un peu plus cher, mais voilà, ça représente une grosse part du budget.
On bloque le poil. Dernière question, l'argument que Macron avance, c'est que c'est écologique de taxer le diesel. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, pour l'écologie, après, ça peut se comprendre, mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'ils font pas trop d'efforts pour la transition écologique, parce qu'on a bien vu, genre, j'ai vu que par exemple, 20% de la somme serait juste pour la transition écologique, alors que normalement, ça, si ce serait logique, pour moi, ce serait presque au moins 50%, quoi. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une excuse pour nous taxer, voilà, parce qu'on a une dette qui est en train de monter chaque jour de plus en plus. Donc, du coup, je pense qu'ils ont besoin de trouver des fonds, quoi.
Ça, il y a une autre question qui me vient, parce que t'as l'air quand même bien renseigné. Comment tu t'informes, là? Comment tu trouves ces chiffres-là?
Bah, je m'informe généralement sur Internet, parce que aujourd'hui, c'est, je pense, la première source d'information, peut-être des jeunes. De mon âge.
Sur quel site tu...
Bah, en fait, je m'informe beaucoup sur YouTube. En fait, j'essaye de m'informer de à peu près de tous les courants, quoi, que ça soit d'extrême gauche à extrême droite, passant par le centre. Je m'informe aussi, par exemple, des journalistes publics comme France Télévisions. Je m'informe vraiment de partout, en fait, pour avoir ma propre opinion, parce qu'après, aujourd'hui, même avec les fake news, avec tout, c'est vraiment très difficile d'avoir une information assez propre. Donc, du coup, je préfère m'informer de tout pour avoir à peu près une vision un peu globale, quoi.
Très bien, merci Billy.
Ah bah merci beaucoup. De rien.
Nous revoilà en studio. Alors, j'étais retourné sur le rond-point du bowling à ce moment-là et je voulais interviewer une dame qui me dit, qui veut pas parler, qui me dit mais allez voir Eric, c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Donc je vais voir le Eric en question. Et lui-même pas envie de parler. On voit que c'est un organisateur, il gère un peu, il regarde, il va voir les gens, il y avait quelques personnes qui commencent à picoler, il leur dit calmez-vous un petit peu, tout ça. Et lui non plus veut pas parler, mais il m'oriente vers celui qui se présente comme le porte-parole, qui est Pierre. Alors, je suis allé voir Pierre, j'ai discuté, je l'ai interviewé, Pierre. Pierre, c'est un homme, ma foi, fort aimable, qui parle bien, et ça, il y en a besoin dans les mouvements. Mais, Pierre, je me suis un petit peu renseigné sur lui. J'ai des trucs à dire sur lui, mais pour l'instant, on l'écoute, et puis on en parle tout de suite après. Pierre.
Donc je suis avec Pierre, le porte-parole du mouvement des Gilets jaunes sur Rodez, c'est ça?
Oui, c'est ça, sur Rodez, oui.
Alors qu'est-ce que vous faites là?
Ici on est sur le rond-point donc pour bloquer la circulation. Alors c'est un barrage filtrant, c'est-à-dire qu'on laisse passer quelques voitures puis on bloque. On est sur en fait au total 4 ronds-points où on fait ça pour manifester notre colère face à l'augmentation des taxes sur le carburant.
D'accord. C'est vous qui êtes à l'initiative ici sur Rodez?
Alors c'est pas moi qui suis à l'initiative, c'est Eric qui a l'initiative, il a agrégé autour de lui quelques personnes. Bon, on m'a désigné comme porte-parole parce qu'il paraît que je parle pas trop mal, donc voilà.
Comment ça vous est venu? Vous avez relayé nationalement? Comment vous êtes organisé?
Alors ça a été une page Facebook qui a été créée donc locale sur Rodez, qui a relayé évidemment le mot d'ordre national qui était lancé. Donc voilà, on a vu ça passer sur Facebook et puis certains ont créé cette page Facebook de Rodez. Et très rapidement, on est passé à 200 membres au départ, à maintenant on est à presque 3000 membres sur le groupe. Donc voilà, ça a fait l'effet boule de neige, on sent qu'il y a une véritable exaspération des gens, surtout ici en milieu rural, quoi. Ouais.
C'est parti du prix du diesel. Vous roulez en diesel, essence?
Ah, monsieur, en diesel, faut bien voir que d'une part, on n'a pas trop le choix de d'utiliser notre voiture, hein, puisque en Aveyron, on a très peu de transports en commun et pas pratique. Que la voiture, elle est pas, on l'utilise pas pour pour s'amuser, mais parce que c'est nécessaire pour aller travailler. Et voilà quoi. Donc le diesel, parce que ben c'est la voiture qui a été le plus vendue. On nous l'a vendue comme étant des voitures fiables, écologiques, il fut un temps. Et puis effectivement, le prix était moins cher. Donc dans un contexte économique où ça devient de plus en plus difficile de boucler les fins de mois, bah c'est sûr qu'on se tourne vers le carburant le moins cher. Oui.
L'argument écologique de dire on taxe le diesel, qu'est-ce que... Ou même de l'argument écologique tout court, il faut faire de l'écologie, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec l'idée de faire de l'écologie et de diminuer effectivement notre dépendance au gasoil et à l'essence en général, aux énergies fossiles. Ceci étant, on va pas le limiter, on va simplement taxer les gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est plus cher que je vais moins me déplacer, de toute façon j'ai pas le choix. Ce qui veut dire qu'en fait derrière il y a l'idée de taxer plus pour rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Et si on voulait vraiment avoir une démarche écologique, on commencerait par taxer les carburants qui ne sont pas taxés, à savoir par exemple le kérosène pardon, pour les avions, c'est à 0%. Là, on pense que peut-être les gens prendraient moins l'avion si c'était taxé. Mais là, on ne le taxe pas, ni le fioul lourd qui est utilisé dans les bateaux, notamment les bateaux de croisière. Bon, et là, si c'était taxé, bah, peut-être qu'on pourrait diminuer le nombre de croisiéristes et donc diminuer vraiment la pollution. Mais là, taper sur les voitures particulières, c'est taper sur le populo, quoi, sur nous, sur les gens qui n'ont pas le choix que de rouler en voiture pour aller travailler, quoi. Et puis pour aller chez le médecin, pour aller faire les courses, etc.
C'est votre première action ou vous êtes un habitué des manifs ?
Ah, moi, je suis plutôt engagé dans l'action syndicale, mais là, on ne le met pas en avant, c'est pas la question ici, quoi. La majorité des gens sont quand même, c'est leur première manifestation. J'ai entendu encore tout à l'heure une dame qui a plus de 60 ans qui me disait c'est ma deuxième manifestation depuis que j'avais 19 ans, quoi. Donc, c'est quand même marquant, quoi.
Là, vous allez rester ici toute la journée ?
Oui, c'est prévu, alors on verra en fonction de la motivation, 16h, 17h, 18h, mais bon, on va rester que pour la journée, oui.
Et après, vous continuez ?
Après, ça dépendra de la réponse du gouvernement. Si le gouvernement s'engage à ne plus augmenter les taxes sur le carburant, eh ben, on dira qu'on aura déjà eu une première étape qui aurait été positive. Si ce n'est pas le cas, s'il maintient malgré tout ces mesures, notamment l'augmentation de janvier, eh ben, à ce moment-là, on recommencera autre chose.
Voilà, c'était Pierre. Pierre, je l'ai rencontré, puis j'avais des copains qui ont fait comme moi, qui sont venus en observateur bienveillant sur les ronds-points occupés par les Gilets jaunes ce samedi-là, et il le connaissait aussi. Et Pierre, il s'agit de Pierre Van Honnesleeg. Et Pierre est connu parce que c'est un chroniqueur sur le site Boulevard Voltaire. Donc c'est un célèbre site conspirationniste et d'extrême droite. Et on peut voir les articles qu'écrit Pierre. C'est des articles contre les pédagogistes de l'éducation nationale, contre les féministes aussi, contre les femmes volées. Pierre a souvent peur que son mode de vie soit menacé par le parti de l'étranger. Enfin bref, il reprend la théorie du grand remplacement. Voilà, je dis juste ça, je pose ça là, je n'affirme en rien que les Gilets jaunes défendent tous ces idées-là, loin de là. C'est plutôt, je le répète, le contraire que j'ai ressenti, celle d'une révolte sociale. Cependant, en vieux routard des manifestations et des mouvements sociaux que je suis, j'ai appris à me méfier de ceux qui, comme Pierrot, gueulent à pas de récupération politique. C'est souvent ceux-là qui dissimulent leurs intentions. Une fois encore, je pose cela, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense que si une quinzaine de syndicalistes, de militants de gauche, aguerris, s'impliquaient dans ces rassemblements sur Rodez, eh ben, sans leur drapeau, sans leur pancarte, on peut les laisser au vestiaire, mais on laisse jamais ses idées et ses valeurs. Des gens comme Pierre seraient éclipsés gentiment, ils seraient poussés vers la sortie, parce que politiquement ils sont pas très bons, voilà, et leurs idées politiques ne défendent pas une révolte sociale. J'en dis pas plus, on va continuer dans les interviews. On va faire d'abord une petite pause musicale, encore une chanson que j'ai entendue sur les rassemblements. Il s'agit d'Antisocial de Trust, et ensuite on écoutera Jean-Luc et Beto. Voilà, Antisocial de Trust.
Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. antisociale, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. Oh les éclaboussants, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Alors je suis avec un autre, non c'est pas un gilet jaune, il n'y a pas de gilet jaune, avec Jean-Luc qui est venu pour soutenir le rassemblement. Enfin, c'est pour ça ?
Exactement, parce que je trouve qu'il y a une atteinte aux libertés publiques, du fait que ce gouvernement nous impose beaucoup de déréglementations dans le domaine économique, et que cette politique porte préjudice aux ménages les plus modestes. Voilà.
Alors eux, ils invoquent le dérèglement climatique. Est-ce que c'est un argument qui te parle, toi ?
Pas du tout, puisque on sait très bien que le diesel nouvelle génération pollue beaucoup moins, et que les nouvelles techniques par rapport aux voitures électriques, il va falloir consommer davantage d'électricité, que effectivement pour retraiter les déchets nucléaires, rien n'a été pensé à ce niveau-là. Je pense que c'est davantage pour lancer la consommation que plutôt pour se préoccuper de l'intérêt disons du climat.
Alors, il y a une question que je pose à tout le monde, c'est plutôt un habitué des manifs ou c'était la première action ?
Non, c'est la première fois.
Première ?
C'est la première fois parce que j'ai un ras-le-bol général, vraiment un grand ras-le-bol.
L'occasion fait le larron ?
Parce qu'on nous prend pour des imbéciles. On n'est plus en démocratie, on est en dictature, on est dans un régime autoritaire.
Comme en Turquie,
C'est beaucoup plus déguisé, c'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus mesquin. Voilà, bon, il y a aussi les retraités, leur, leur pouvoir d'achat qui baisse constamment. La taxe d'habitation, c'est du n'importe quoi, parce que puisque la contribution généralisée qu'on a pris aux petits vieux, en fait, voilà, dépasse largement ce qu'on leur restitue pour la taxe d'habitation.
Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit plus démocratique ici ?
Je pense qu'il faut tout refaire, tout refondre.
Une révolution ?
La révolution des cœurs et de la pensée.
D'accord. Merci Jean-Luc, le révolutionnaire. Alors maintenant, je suis avec Beto, qui, on me l'a présenté comme l'organisateur, en tout cas du rond-point.
Citoyen comme tout le monde. D'accord. Et donc, on manifeste à cause du prix du gasoil, bien évidemment. Et donc, on est là pour être visible, quoi. Hein. On ne fait pas un blocage, on passe les voitures au ralenti. Et ça permet de les faire réfléchir. Mais bon, eux aussi sont très solidaires. Il y a beaucoup de gilets jaunes dans les voitures. Hein, et puis, c'est tout. Hein. Mais sinon, je suis citoyen comme tout le monde et pas organisateur du tout. Hein. Moi, j'ai entendu ça avec le bouche à oreille. Je dis, je vais y participer parce que je suis moi aussi mécontent, comme l'ensemble des gens qui sont ici.
On m'a dit que c'est vous qui avez mis la banderole ici.
Ah oui,
vous pouvez la lire ?
Je suis peintre à mes heures. Alors, j'ai fait une banderole et j'ai marqué « Mon pays, c'est l'amour d'appauvrir le peuple ». Et en même temps, puisque on en connaît un qui dit toujours en même temps, donc « Mon pays, c'est l'amour d'appauvrir le peuple et en même temps enrichir mes copains », signé Macron. Parce que pour moi, ces copains-là, il a qu'à remettre l'ISF, du pognon, il en trouvera. Le mec qui prend l'avion tous les jours, le kérosène, ça pollue. Je vois pas pourquoi on taxerait le gasoil, que c'est essentiellement le peuple qui s'en sert. Et pourquoi les riches, les gens qui, eux, ont les moyens de prendre un avion, par exemple, ils payeraient pas la taxe sur le kérosène. Après, il y a aussi d'autres solutions. Et l'ISF en fait partie. Si l'État veut du pognon, l'ISF, quand même, il en récupérera du pognon, quoi.
Vous, par exemple, vous roulez essence ou diesel ?
Moi, je roule diesel. Depuis de tout temps, on m'a toujours dit le diesel, c'est très bien, ça consomme moins. Et je suis d'une génération, j'ai 50 ans, où c'est qu'on roulait en gasoil. Parce que moi, j'habite à Cahors et je travaille à Rodez. Donc déjà, il me faut un véhicule gasoil pour essayer d'économiser. Et puis maintenant, on m'a dit, voilà, le gasoil, il est à un prix exorbitant. Donc comment je fais, moi ?
Ça représente combien à peu près sur votre budget ?
Les chiffres même plus, tellement... Le 15 du mois, t'es sec. Donc de toute façon, même si t'es à découvrir à la banque, du gasoil, t'en mets dans la voiture. Hein. Faut continuer à travailler.
Et l'argument comme quoi ce serait une mesure écologique, vous en pensez quoi ?
Mais c'est du pipeau. Moi je vous dis, là ici on est en train de parler à l'air libre là, vous êtes d'accord avec moi, on est au milieu d'un rond-point. Le kérosène là, quand même, faut pas me dire que ça pollue pas. Là on prend des micro-particules de kérosène qui sortent direct du réacteur. Ça pollue. Moi je suis désolé, c'est pas une solution de dire il n'y a que le gasoil qui pollue, il n'y a pas que ça.
C'est votre première manif ou vous êtes un habitué des rassemblements ?
Ben non, j'ai déjà manifesté pour les retraites parce que j'ai de la famille qui est retraitée et qui m'a sollicité dernièrement pour une manif pour les retraites parce que les retraites ont baissé. Ça m'arrive aussi des fois de faire des mouvements pareils pour les gens qui... Mon fils est infirmier, quand il fait une manif à aller à l'hôpital de Montauban parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers à l'hôpital de Montauban, ben je vais le soutenir sur mon temps de repos. Et il y a plein de choses qui vont pas bien, on va pas refaire le monde aujourd'hui, mais bon... Là, aujourd'hui, on peut dire que le gasoil, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est les citoyens qui sont dans la rue. Et ça, c'est quand même essentiellement les gens du peuple, les gens qui se servent du gasoil parce que c'est un besoin pour aller travailler, tout simplement.
Vous allez continuer ? Là, vous allez rester jusqu'à quand, ici, par exemple ?
Ben là, je sais pas exactement, c'est au bon vouloir de chacun. Mais il y a des gens qui arrivent qui n'étaient pas là ce matin, il y en a qui vont partir parce qu'ils travaillent cet après-midi. On va voir si ça dure au moins tout le week-end. À la fin du week-end, il fera le bilan, Macron, et puis j'espère qu'il nous parlera, qu'il fera une déclaration dimanche au soir de la mobilisation, parce qu'elle n'est pas qu'ici, elle est dans toute la France.
Je revois l'artisan que j'ai interviewé tout à l'heure, qui est avec le sourire, qui essaie de passer, qui discute.
Oui,
ouais, il a des affiches sur son camion. Merci, Beto.
De rien.
Nous revoilà en studio. En début d'émission, je vous disais que j'avais été un petit peu embêté par une certaine forme de mépris qu'affichaient les militants aguerris, qui étaient un peu énervés que les gens se mobilisent maintenant et pas avant. Bon, bah, il faut bien commencer un jour, et puis l'occasion fait le larron. Et il y a aussi une autre forme de mépris qu'on voit dans la presse, c'est celle de nos journalistes vedettes, de nos médias nationaux. Et j'ai trouvé un petit texte très sympa, un édito du journal Frustration. Je vous en parlais souvent dans l'émission des Roquets Rouges. Allez lire Frustration, vous le trouvez à la Maison de la Presse à Rodez. Et voilà ce qu'il disait sur le mouvement. Je vous le lis. « Depuis samedi, le pays est agité par un mouvement d'une forme inédite et d'une intensité rare. Parce que les journalistes sont attirés par la nouveauté, comme les pies le sont par tout ce qui brille, la couverture médiatique est très importante. Comme tous les commentaires, surtout pour le pire. » On voit donc se succéder les moqueries des twittos issus de la bourgeoisie culturelle sur les chenilles qui sont menées durant les blocages, succédant aux analyses de la bourgeoisie éditorialiste qui ne s'interdit pas de qualifier les plus de 300 000 personnes mobilisées de cons, de beaufs, voire, comme le fait Le Monde dans un dessin bien pourrave, d'abrutis. Quand c'est Mélenchon qui traite les journalistes d'abrutis, ça provoque l'union de toutes les rédactions, mais quand c'est sur des Français anonymes, on a bien le droit, apparemment. Cette France provinciale, des salariés du privé et des artisans, provoque le dégoût de classe des classes supérieures qui ne s'embarrassent pas de convenances pour l'exprimer. Pour elle, défendre la bagnole est une hérésie et ses membres sont infoutus de comprendre que plus personne ne vit dans les centres-villes qu'ils ont colonisés par leur gentrification, leur bar concept et leur foutu pied-à-terre. Ou plutôt, ils s'en foutent. Car ce qui caractérise de plus en plus nos commentateurs, c'est leur indifférence criante et revendiquée à l'égard des conditions de vie de leurs concitoyens. Les salaires baissent, stagnant sous le niveau de l'inflation, et les impôts ont globalement augmenté, pour le bonheur des plus riches qui en payent moins. C'est ça la réalité de ce que vivent les gens. Et si nos bourgeois sont capables de gober le prétexte de la transition écologique pour ce qui n'est qu'un greenwashing du rééquilibrage fiscal en faveur des riches, c'est parce que cette classe a toujours nimbé son exploitation d'autrui de prétextes vertueux. Avant-hier, le mépris du travailleur était embrobé de religiosité, hier de mérite éclatant, aujourd'hui d'écologie et de bon goût. Sus au beauf qui fait la chenille pendant les mariages et qui roule au diesel. Vive nous les riches qui avons bon goût pendant les mariages et prenons notre vélo entre deux vols long courrier. Beauf, abruti, con, sont autant de manifestations d'un dégoût de classe à peine masqué ou totalement assumé par des gens qui ne vivent qu'entre eux et qui, le soir venu, après avoir déversé leur venin sur les citoyens moins riches qu'eux, n'en croiseront pas dans leur quartier gentrifié, leurs rues privées, leurs boulevards pavés de bonnes intentions. Il y aurait beaucoup à dire sur ce mouvement loin d'être parfait, loin d'être magique, où l'on trouve la colère du peuple, mais aussi des expressions d'homophobie, de racisme et d'islamophobie. Mais rien à attendre des analyses foireuses d'une élite autoproclamée qui squatte nos télés depuis plus de 30 ans pour nous vendre la merde néolibérale de leur classe sociale. Dégagez les blaireaux déconnectés. Allez vous enfermer dans votre île de Ré, on bloquera le pont derrière vous. Voilà, c'était l'édito du journal Frustration. Alors maintenant, on va attendre une dernière interview. Il s'agit de David. Alors David, c'est une grande gueule. Et je dis ça sans aucun côté péjoratif, ça n'a rien d'insultant. Mais j'allais sur le dernier rond-point, celui de Calcomier, en passant en vélo, et j'entendais quelqu'un qui avait un discours, ma foi, très structuré et très clair. Je me suis approché, j'ai écouté, puis après j'ai discuté avec lui. Voilà, il s'agit de David. On l'écoute.
Donc, je suis avec David, que j'entendais discuter, c'est l'heure de l'apéro en plus. Donc David, vous êtes là pourquoi ?
Ben là, je suis par rapport aux manifestations qui a été organisée par rapport aux gilets jaunes et de dire notre mécontentement. Donc il y a eu le problème du mécontentement par rapport à la taxe de gasoil, mais de l'essence et tout ça. Mais le problème n'est pas là. Le problème est surtout qu'on en a ras-le-bol de subir des taxes. Alors on nous dit, on nous augmente ceci, on nous augmente cela, mais on nous le retire à côté. Et comme je disais tout à l'heure avec mes collègues, il y a une chose qui est bien dans ce mouvement que les gens devraient voir et s'apercevoir, c'est que depuis des années, et voire même des décennies, c'est nous qu'on subit la politique française. Alors qu'actuellement, quand on dit que les groupes politiques se raccrochent à ce mouvement, eh bien moi, la seule chose que je vois, c'est que je me dis, mais pour une fois, la politique se raccroche à ces mouvements. Pourquoi ? Pour pouvoir écouter ce que le peuple a à dire. Ce que nous, on a à dire. C'est-à-dire que nous, on en a ras-le-bol. On sait que le temps sont durs. On est les premiers. Mais arrêtez de taxer les petits pour nourrir les gros. Je vous prendrai un exemple tout simple. Hein. La taxe d'habitation, elle va être diminuée, soi-disant, à certains endroits, sur 3 ans. L'IFM, ça a été du jour au lendemain. Expliquez-moi pourquoi. Voilà. Après voilà, le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement qui y a pas de problème géopolitique comme on dit. C'est-à-dire que c'est un problème majeur en France. C'est-à-dire qu'on est tous pareils, que ça soit les classes moyennes, que ça soit les sans emploi, que ça soit même je dirais entre guillemets pas les riches, mais les gens qui aussi vivent bien. Voilà, je fais pas partie des gens qui à la fin du mois, si je m'en vais une journée de mon travail, je fais grève une journée, que à la fin du mois je mange pas. Mais je me dis, si j'attends ce moment-là, ben, ça sera peut-être trop tard. Et puis aussi, je me permets de faire ça pour des personnes qui ne peuvent pas attendre une journée, elles ne peuvent pas se permettre de faire grève une journée, parce qu'à la fin du mois, ben, cette journée-là va leur manquer. Et ben moi aussi, je fais grève pour ces gens-là. Voilà que pour nous, le mouvement, c'est un mouvement, en fin de compte, c'est un mouvement humain au départ. C'est un mouvement humain, c'est les gens qui veulent pouvoir vivre. On ne demande pas de pouvoir dépenser, de vivre comme des rois. On demande de pouvoir vivre, c'est tout. Pour moi, ce mouvement, C'est pour ça que je suis là et que beaucoup de gens sont là. Voilà.
Vous avez déjà participé à des mouvements pour les services publics et les hôpitaux ou c'est votre première là ?
Ah non, non, je suis déjà quelqu'un, j'ai une carte dans un syndicat, je suis quelqu'un qui a déjà fait des manifestations sur beaucoup de choses, contre les terrorismes, le problème c'est que moi je suis dans le privé, il y a les problèmes du public, il y a les problèmes du privé, mais on est tous dans le même lot, il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public. Il y a les hommes, les femmes, les êtres humains, les personnes âgées et tout ça. C'est pareil, comme quand on vous parle pour les personnes âgées, on vous parle des retraites. Vous trouvez normal que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour gagner un SMIC, on va lui dire, on vous prend un peu d'argent pour aller donner de l'argent à quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il a pratiquement la même retraite. Kiff, kiff. Eh, je sais pas lui dire les chiffres parce que je les connais pas. Je comprends que la personne qui a du mal avec sa petite retraite d'arriver à la fin du mois, de dire moi me taxe à moi pour donner à quelqu'un qui a jamais travaillé. Je dis pas que c'est
qui a jamais travaillé. Pensez à qui?
Mais quand je parle à gens qui ont travaillé, il y a des gens qui n'ont pas travaillé qui ont droit à un minimum pour vivre, ce qui est normal. Mais c'est pas les petites retraites qu'il faut taxer. C'est plutôt les grands ou les gens qui doublent la valeur du produit qu'on achète. Qui le triple, voire même qui multiplie par 5. Et on le sait, ça. On le sait. Eh, pendant des années, on a badé les réseaux sociaux, mais grâce aux réseaux sociaux, nous aussi, les petits, on peut se renseigner de ce qui se passe à côté. Et on est plus au courant que qu'on l'était il y a des années en arrière. Donc voilà.
Vous, personnellement, vous roulez en diesel ou essence ?
Moi, je roule, j'ai plusieurs véhicules. Donc je vous dirai. Moi, le problème, c'est que je travaille dans une usine qui fabrique pour le diesel. Donc c'est Bosch sur l'Aveyron. Moi j'ai un véhicule diesel, donc c'est vrai que je m'en sers surtout pour faire des gros trajets, et après j'ai ma petite essence pour aller au travail, pour tout ça. Mais après voilà, si vous parlez du problème du diesel, moi je vais vous dire que le problème du diesel, il y a eu une histoire du diesel qui est fausse. Arrêtons de dire des choses sur le diesel. Le diesel pollue, oui. L'essence pollue, oui. Et ça, j'espère que ça sera pas coupé. L'électrique pollue, d'accord. Tout véhicule pollue. Le problème, c'est que mettons les véhicules à leur place. C'est-à-dire que les gens qui roulent, qu'une personne qui fait beaucoup de route, le plus économique et le moins polluant, c'est le diesel pour le moment qu'on a. Faut arrêter, l'électrique, ça pollue pas. Ben, ça pollue pas quand on roule, mais ça pollue à la fabrication. Faut savoir qu'une batterie de lithium, une batterie d'une Zoé, à recycler, ça correspond à 300 diesels dernière génération. Expliquez-moi où est la différence à la pollution.
Donc l'argument écologique qu'avance Macron et Edouard Philippe, c'est du pipeau pour vous ?
Non, il n'y a pas que du pipeau. Il ne faut pas dire que c'est que du pipeau. Il y a des choses qui sont bien, mais le problème, c'est que autour, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Comme quand on dit que le diesel est pollueur. Non, on dit que les vieilles générations de diesel, pas les nouveaux. Les nouvelles générations de diesel ne sont pas des véhicules qui polluent plus que ça. Ils ont leur pollution, je suis d'accord. Mais arrêtons. Vous imaginez quand même, quand on rapatrie des produits de Chine et tout ça, c'est dans des tankers. Vous prenez 5 tankers dans le monde, 5 tankers, ces gros bateaux avec les conteneurs. Ça correspond, juste 5 tankers sur les océans et nos mers, ça correspond à toute la pollution mondiale de tout véhicule thermique. Alors nous, avec nos petits diesels, on va nous dire, ouais, vous polluez, mais alors les tankers, par contre, non, eux, ils polluent pas. Faut arrêter.
Alors je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que transportent les tankers, on les consomme, on en a besoin ?
Oui, mais pourquoi on en a besoin ? Si on gagnait mieux, on était moins taxé en France, mais peut-être qu'on achèterait plus de produits chez nous plutôt qu'à les acheter là-bas.
Vous allez rester ici longtemps ?
Le temps qu'il faudra, je pense. Voilà, on va se relayer. Dernièrement, j'ai entendu quelque chose, c'est que des ondits. On dirait que le mouvement risque de se suivre lundi par d'autres personnes, par exemple les chauffeurs poids lourds, les routiers. Je ne sais pas. Et
les propositions de Macron pour racheter des véhicules, les primes, vous en pensez quoi? Ça va dans le bon sens ou pas?
Non. Parce qu'en fin de compte, ça va être juste boosté sur le moment et après, on va revenir au même point. Je veux dire, voilà, passer à l'électrique, mais un électrique, c'est quoi? C'est bon pour faire de la ville. Vous avez une autonomie de combien? Vous avez 100 km, au bout de 100 km maximum. Et 200 km, je suis large. À 200 km, vous savez que vous avez plus de 20, 30 minutes, voire 1 heure, voire 2 heures pour recharger votre véhicule en charge rapide. Non, puis c'est pareil, 4000 euros, oui, mais déjà, il faut avoir l'argent pour acheter un véhicule. À 9, 4000 euros, ou même sur l'occasion, ça marche. Mais le problème, c'est que voilà, est-ce que tout le monde est prêt maintenant, parce qu'ils nous imposent à vouloir changer nos véhicules maintenant? Mais qui a l'argent pour pouvoir changer un véhicule maintenant? Ouais. Moi, personnellement, est-ce que j'ai prévu de changer un véhicule? Non. Alors, quelqu'un qui n'a pas besoin de changer son véhicule pour le moment et qui ne peut pas, surtout qui ne peut pas, eh bien, il devrait être obligé de le changer parce que moi, on va t'aider avec 4000 euros. Mais 4000 euros sur 10 000 euros, on aime dire ou 20 ou 30 000 euros sur une voiture neuve. Bon, non, moi, je trouve que on dit qu'on est en démocratie. Hein, la liberté d'expression et la liberté de vivre comme on veut. Mais je veux dire, on n'est pas... mon véhicule, j'ai peut-être un véhicule qui est un peu polluant. Je suis d'accord, mais je ne peux pas aujourd'hui changer mon véhicule parce qu'on a décidé qu'il fallait le changer maintenant. Voilà. Alors, l'histoire de la pollution, ça date pas de maintenant, ça date pas de Macron. Faut arrêter. Il faut juste se dire que c'est que, oui, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut faire attention à notre façon de consommer, notre façon de vivre. En Europe, faut savoir une chose, c'est que quand même l'Europe, on est quand même l'un des continents, pardon, où on est quand même bien placé sur les pollutions et tout ça. Excusez-moi, mais quand vous voyez certains pays comme la Chine, tout ça, qui polluent à tout va, ou en Afrique, ou un truc comme ça, ou dans des pays...
Les États-Unis,
exactement. Nous, en France, je pense que déjà, on a déjà... je pense que le ras-le-bol vient de là aussi, c'est qu'on a déjà beaucoup fait pour ça, de faire très attention. Nos diesels, ils polluent au départ. Petit à petit, on a mis des filtres à particules, des vannes EGR, des systèmes pour pouvoir qu'ils polluent moins. Et on nous tape encore sur nous, alors que, excusez-moi, mais vous prenez la Chine ou les États-Unis qui produisent pas possible et qui s'en foutent complètement de la pollution. Moi, je vois pas pourquoi nous, on devrait faire des efforts et qu'on leur dit rien. Une fois, on m'a dit, ouais, mais nous, David, on a eu notre période où on en a profité et on a pollué. Je suis d'accord. Mais nous, à l'époque, on savait pas les dégâts qu'on faisait. Tandis que eux, là, ils polluent, mais ils savent les dégâts qu'ils font. Nous, on n'avait pas les analyses qu'on a fait maintenant, qu'on s'apercevait par rapport à la planète et tout ça, et les pollutions qu'on faisait. Après, c'est pareil, tout le monde se greffe sur les carburants, ça pollue, le réchauffement climatique et tout ça. Il faut savoir une chose, c'est qu'il faut faire très attention à une chose, c'est que le réchauffement climatique, quand on lit un petit peu, qu'on s'intéresse un petit peu, quand on parle par exemple le temps qu'on a actuellement, des moments de pluie, des moments où il fait doux, à cette période où il fait 12 degrés, alors que normalement il devrait plutôt faire 3, 4, voire 5 degrés, mais c'est déjà arrivé. Ça vient pas du réchauffement climatique, c'est déjà arrivé. La fonte des glaces, oui, mais il y a des endroits où il fait plus chaud, mais il y a des endroits aussi qui fait plus froid. Mais ça, on n'en parle pas. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, ils se sont intéressés au réchauffement climatique parce qu'il y a eu une baisse de température énorme. Il n'y a pas longtemps, sur une radio qui est passée, c'est une concurrente à vous, c'est Totem, excusez-moi, concurrente à CFM, je vous dirai une chose. La personne qui a parlé est très bien, je ne me rappelle pas du nom, mais elle a bien dit qu'à partir du moment où il y a eu un refroidissement de la planète, ils se sont intéressés au réchauffement climatique. Et depuis ce moment-là à maintenant, il paraît que ça se mesure à 0,01 degré. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Mais aujourd'hui, par contre, on est là pour mettre tout dans le même sac, pour arrêter de dire que nous, on doit payer pour tout. On doit tous faire attention, c'est vrai. Mais arrêtons que nous, en bas, on paye et qu'eux, en haut, ils rigolent. C'est tout.
C'est la conclusion. Merci, David.
Voilà.
Voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. C'est vrai, je suis conscient que je n'ai vu qu'un infime échantillon de la mobilisation. Je pense aussi que les gilets jaunes sont différents d'une région à l'autre, tant dans leur sociologie que dans la hiérarchie de leurs revendications prioritaires. C'est pas les mêmes gilets jaunes à Toulouse qu'à Toulon, hein. C'est pas les mêmes voitures non plus. Cependant, je suis convaincu que c'est un public compatible avec les propositions qu'ont exprimées plusieurs syndicats et partis de gauche, résumés par l'appel des gilets verts. Tapez sur Facebook Gilets Verts, vous trouverez leur page, et ils ont, par exemple, les revendications suivantes. Le développement et la gratuité des transports en commun, la réouverture des petites lignes SNCF, la taxation de marchandises aériens et maritimes, le développement des circuits courts, la captation d'élévation fiscale pour financer une transition sociale et écologique. Voilà, ce sera un peu Nuit Debout qui rencontrerait les gilets jaunes, à condition bien sûr de ne mépriser personne. Pour terminer, je laisserai la parole à un ancien chroniqueur du début du XXe siècle qui s'appelait Lénine et qui disait, je le cite, « Croire que la révolution sociale soit concevable sans explosion révolutionnaire d'une partie de la petite bourgeoisie, avec tous ses préjugés, sans mouvement des masses prolétariennes et semi-prolétariennes, politiquement inconscientes contre le joug seigneurial, clérical, monarchique, national, c'est répudier la révolution sociale. C'est s'imaginer qu'une armée prendra position en un lieu donné et dira « nous sommes pour le socialisme » et qu'une autre en un autre lieu dira « nous sommes pour l'impérialisme » et que ce sera alors la révolution sociale. Quiconque attend une révolution sociale pure ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Il n'est qu'un révolutionnaire en parole qui ne comprend rien à ce qu'est une véritable révolution. Je vous relis l'avant-dernière phrase. Quiconque attend une révolution sociale pure ne vivra jamais assez longtemps pour la voir. Voilà, ce sera le mot de la fin. On se tient au courant et on continue à surveiller ce mouvement des Gilets jaunes. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Ciao.
Moi, président de la République, j'ai une très
Bah, dis ça, on peut le dire.
Ladies and gentlemen, we got it.
Je croirais chez les bolcheviques.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.